Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Deux heures en compagnie d'un fief égarnement qui ne m'épargne pas de son fiel. Mais je suis complice parce que au fond ça m'amuse bien et j'en redemande. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour mon cher Stéphane Bern, bonjour à tous. Oui, chaque après-midi on part à la rencontre de trois personnages issus d'époques différentes mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui c'est en réécoutant un tube de sa jeunesse signé Jean-Patrick Capdevielle que Stéphane a eu l'idée du thème.
Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps.
Alors personnellement je ne connaissais pas Jean-Patrick Capdevielle pour la simple et bonne raison que je n'étais pas né en 1980, mais j'ai dit à Stéphane banco pour une spéciale sur les rois du désert.
Et oui, on réunit les dieux du sable cet après-midi. Je vous raconterai d'abord le destin d'Isabelle Eberhardt. Exploratrice, écrivaine, journaliste, elle a réalisé son rêve, traverser le désert du Sahara, se rendre en Algérie à la rencontre des Bédouins, dont elle-même a pris l'apparence. Lui aussi a marché longtemps, mais alors longtemps, longtemps dans le désert, pour rejoindre la cité de Tombouctou. Il est le premier Européen à y avoir pénétré et en être surtout revenu. Je vous raconte l'histoire de René Caillé. Et vous Mathieu, quel dieu du sable encore en vie avez-vous choisi pour votre portrait à 99% vrai ?
Si le sable de Malibu a été si chaud durant les années 90, ce n'est pas l'effet du soleil, mais d'avoir été au contact de la peau de David Hasselhoff. Le sexe symbole de la série Alerte à Malibu, qui aujourd'hui doit être le héros de la série plus confidentielle Alerte à l'EHPAD, David a encore perdu son fixe aux dents. Nous prendrons les nouvelles de ce bon vieux David. Oh, mais non. D'abord, présentons notre mirifique équipe, qu'on aimerait voir d'ailleurs courir au ralenti aussi en maillot de bain rouge. Elle est d'ailleurs à l'histoire ce que Pamela Anderson est au bikini. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah oui, ça c'est, tout à fait moi. Mais d'ailleurs, je vais plutôt me mettre dans votre roue, Mathieu, parce que moi je veux aussi évoquer un foireux du sable et non pas un dieu du sable. Le foireux du sable, c'est Jacques Ier, l'empereur du Sahara. C'était un fils à papa et qui s'appelait en fait Jacques Le Body, un idéaliste, un excentrique immensément riche. Il s'ennuyait beaucoup et un jour il se dit si j'allais me tailler un empire dans le désert du Sahara.
Lui, Stéphane, il me confie hors antenne qu'il s'était donné du plaisir devant les VHS d'Alerte à Malibu jusqu'à un âge assez avancé.
Moi, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 19 ans.
L'autre David, David Kstelopsch.
Exactement. Alors moi, le rapport avec le sable est un petit peu lointain, mais on pourrait dire qu'on peut s'en servir pour l'enlever quand on en a renversé par terre. C'est les origines de l'aspirateur.
Ah, bien joué, David. Olivier Poul, c'est avec nous aussi, Stéphane. Oui. C'est votre chroniqueur préféré, Olivier,
parce
qu'il
la,
nous parle
la nourriture,
de la nourriture.
Les spécialités culinaires.
Et alors là, pour le coup, je suis complètement dans le thème aussi, non ?
Ben, les sablés.
Le sable, les sablés.
Le sable, les sablés.
Bravo, vous êtes trop fort.
C'est petit sablé de la
Sarthe. C'est très vieux.
Ah, ça,
ça remonte à la nuit des temps ?
Non, mais c'est ça, quelques siècles.
Enfin, comme David Hasselhoff, Stéphane, mais sans le slip rouge, vous serez forcé et contraint de vous jeter à l'eau. Bern Toubielas.
Seulement si quelqu'un se noie.
Ben, c'est vous, pour qui vous noyez, puisque je parle du quiz. Notre quiz retort vous attend aux alentours de 5h-10. Il s'agira de ne pas se noyer, justement. Mais tout de suite, découvrons notre première reine du sable au sens propre, puisqu'elle a été une des premières femmes à braver les rigueurs du désert. Stéphane Bern nous raconte le destin, très court, vous verrez, mais intense, d'Isabelle Eberhardt, surnommée la Louise Michel du Sahara.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Elle est surnommée Isabelle l'Algérien. Une Russe au désert ou encore l'Amazone des sables. Isabelle Eberhardt n'a vécu que 27 années et pourtant sa courte vie fut d'une densité à peine croyable. Exploratrice, écrivaine, journaliste, cette Russe, née à Genève, déguisée en bédouin, convertie à l'islam et enterrée en Algérie en 1904, a été, de son vivant et les années qui suivirent, souvent incomprise. Suivons les pas d'Isabelle la vagabonde au beau milieu du Sahara. Isabelle Eberhardt a le voyage dans le sang. Dans la famille, traverser les frontières est presque une seconde nature en cette fin du XIXe siècle. La mère d'Isabelle, une aristocrate russe d'origine allemande, fuit le pays avec ses enfants pour la Suisse. Isabelle serait née d'une liaison entre sa mère et le précepteur de la fratrie. Il ne reconnaîtra jamais cet enfant illégitime. Pour autant, il dispense à la petite fille une éducation avant-gardiste. Le matin, elle étudie avec ferveur. Polyglotte, elle parle l'allemand, le russe, l'anglais et apprend l'arabe par ses propres moyens. L'après-midi, place aux activités manuelles. La petite Isabelle sait jardiner, cuisiner et scier du bois. Mais ce père précepteur est également très strict avec la fratrie. Il leur interdit de sortir de la maison. Alors les enfants, devenus adultes, n'ont qu'une idée en tête. Partir découvrir le monde. Certains repartent vivre en Russie, d'autres s'engagent dans la Légion étrangère. Isabelle, elle, rêve d'Orient. Elle dévore les livres de Théophile Gautier, de Pierre Loti, et est fascinée par cette civilisation arabe. En 1897, elle a 19 ans et son vœu est enfin exaucé. Deux photographes amis de la famille, Cécile et Louis David, proposent à Isabelle et sa maman d'aller vivre dans leur maison au nord-est de l'Algérie, à Beaune, une ville portuaire connue aujourd'hui sous le nom d'Annaba. Installée d'abord dans le quartier européen, la mère et la fille déménagent rapidement pour se fondre dans la population, comme Isabelle l'explique dans une lettre. « Je vous dirai seulement que les musulmans m'ont reçu à bras ouverts et que je ne connais pas encore un seul Français ni Française. Ce qui m'écœure ici, c'est l'odieuse conduite des Européens envers les Arabes, ce peuple que j'aime et qui, Inch'Allah, sera mon peuple à moi. » À Beaune, Isabelle tombe sous le charme de cette vie douce et simple. Les maisons sans âge, les couleurs chatoyantes si propres à l'Afrique du Nord, l'appel à la prière qui rythme la journée, tout ici la séduit. Elle consigne ses impressions dans des notes journalières et décrit la ville comme une vieille cité maghrébine assoupie sur son golfe d'azur à l'ombre du grand Idou Morose. Mais cette existence, bleu espoir, vire au noir cauchemar. Quelques mois plus tard, sa mère décède d'une pleurésie. En 1899, revenu à Genève, c'est son père qui disparaît à son tour. À 21 ans, sans père ni mère, Isabelle Everard décide de renaître en Algérie. Elle repart donc en Afrique du Nord pour pousser plus loin son exploration jusqu'au désert. Ce nouveau voyage est une révélation pour la jeune Suisso-Russe. Après 2 mois de vacances en Tunisie avec un ami, elle part pour Batna et Biskra en Algérie. Désormais, pour pouvoir se fondre au maximum dans la population, elle prend une décision radicale et surtout très courageuse pour l'époque. Isabelle se rase les cheveux et s'habille en homme. Isabelle se fait passer pour un étudiant en théologie. Ses très fins interpellent, certes, mais enturbanée et vêtue d'un costume traditionnel, Mahmoud, le nom qu'elle s'est choisi, s'intègre plutôt bien. Aux yeux des autochtones qu'elle croise, elle n'est plus l'européenne en quête d'exotisme, la femme tentatrice, elle est Mahmoud et vit comme un Tunisien, un Algérien. En plein été, sous une chaleur étouffante, elle n'hésite pas à parcourir des centaines de kilomètres vers le sud, à travers des territoires sauvages. Sans véritable préparation, sans denrées suffisantes, elle veut vivre une expérience unique, presque mystique. Elle aime ressentir la chaleur du sable sous ses pieds, le vent appelé Sirocco lui fouetter le visage et déjouer son itinéraire pour l'amener là où est sa destinée. Et le 4 août 1899, Isabelle vit peut-être l'événement le plus important de sa vie d'errance. Son objectif premier était d'aller à Ouargla, mais la zone lui est interdite car trop sensible. Les militaires sur place voient d'un mauvais œil cette Européenne déguisée en homme arabe. Ils l'orientent plutôt vers El Oued. C'est là-bas, au sommet d'une dune en plein désert, qu'Isabelle découvre un panorama qui la laisse sans voix. À l'heure du coucher du soleil, qu'on appelle Maghreb en arabe, elle est subjuguée par les maisons à coupole, le minaret qui domine la ville. Les couleurs ocre, rouge, sable la marquent pour toujours. Cette ville du Sahara est aussi l'écrin qui accueille l'amour d'Isabelle et de son compagnon, Enis Slimane, et non pas Eddie Slimane, ni pas couturier, mais sous-officier musulman, oui, grand, élégant, excellent cavalier, français par son père. Il la chérit la nuit sous une tente en plein désert. Ensemble, ils dilapident le peu d'argent qui leur reste dans la boisson et le kiff mélange de tabac et de chanvre indien. Elle s'habille désormais en bédouin, fait partie d'une confrérie soufie appelée les Quadrias. Les membres de cette confrérie sont opposés à la colonisation française et la jeune femme les soutient. Elle lit le Coran, fait ses 5 prières quotidiennes et vit recluse avec son compagnon dans une maison modeste. Vous l'avez compris, Isabelle Eberhardt a une existence très romanesque, d'autant plus encore qu'elle va connaître des rebondissements. Son attachement à son Algérie bien-aimée est bientôt mise à mal. Isabelle Everhart échappe de peu à un assassinat au sabre par un homme en 1901. Il est jugé et condamné, mais Isabelle est quant à elle expulsée d'Algérie. Elle dérange. À la fois les militaires sur place qui la considèrent presque comme une traîtresse au pouvoir occidental, mais elle irrite aussi une partie des musulmans qui la voient comme une femme trop moderne, car elle est, je vous le rappelle, écrivaine. Exilée à Marseille, l'exploratrice n'a pas le choix. Pour obtenir la nationalité française et revenir vivre en Algérie, Isabelle Eberhard accepte, malgré son combat contre les conventions sociales, de se marier avec son compagnon Enis Slimane, qui lui est français par son père. Une fois les papiers signés, le couple retraverse la Méditerranée. Isabelle est alors missionnée par différents journaux pour couvrir les événements liés à la colonisation. Désormais reporter officielle, elle parcourt le pays, Alger, Boussaada, Ténès. Assoiffée de découvertes, elle ne se ménage pas et va à la rencontre des habitants les plus pauvres, les interroge. Elle nourrit ses articles, mais aussi sa propre volonté d'être considérée comme l'une des leurs. Des femmes qui vont chercher de l'eau à plusieurs dizaines de kilomètres, des hommes qui s'affairent à préparer le thé. Elle est la première exploratrice à mettre en lumière ces populations, humblement, sans l'œil condescendant du colonisateur occidental. Elle se réfugie de plus en plus dans le désert qui l'émerveille. Figuier, dattier, oasis, elle s'abreuve de ces paysages presque oniriques. Mais malgré sa jeunesse, Isabelle a une santé fragile. L'abus d'alcool et de kiff ne l'aide pas et elle doit être hospitalisée pour se remettre d'aplomb. Le 21 octobre 1904, alors qu'elle vient de rejoindre son mari Slimane dans leur maison de Aïn Sefra, un violent orage éclate. Les pluies torrentielles emportent tout sur leur passage. Slimane parvient à s'en sortir in extremis, mais Isabelle, trop faible et dit-on cherchant à récupérer ses écrits, meurt emportée par une coulée de boue. Elle n'a que 27 ans. Son ami, le colonel Lyautey, présent dans la région, exige de ses troupes que son corps soit retrouvé. C'est lui aussi qui récupère les carnets d'Isabelle, des carnets très abîmés qui sont aujourd'hui conservés dans le noir, quelque part dans les armoires des Archives nationales d'Outre-mer, à Aix-en-Provence. Isabelle, elle, repose au cimetière musulman de la ville, la tête tournée vers la Mecque.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Isabelle Eberhard et son histoire, sa vie éminemment romanesque, nous sommes avec l'auteur de bande dessinée Virginie Greiner. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Virginie Greiner. Vous êtes la scénariste d'une bande dessinée qui retrace le voyage de notre personnage, Isabelle Eberhard, la vagabonde des sables, paru chez Glénat. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage pour décider d'en faire comme ça l'héroïne de votre BD? C'est quoi pour vous ce qui fait qu'elle a quelque chose en plus, qu'elle est une véritable héroïne?
Déjà, c'est une femme, et dans la collection Explora, dans laquelle l'album se trouve, il y avait très peu de femmes qui étaient remises en avant. Et donc déjà, effectivement, ce personnage d'Isabelle, au début du XXe siècle, qui comme ça part vers des horizons lointains, et toute seule, et décide effectivement de vivre pleinement ses passions et sa liberté, m'a totalement effectivement fascinée et séduite. Comment cette femme a pu faire ce qu'elle désirait faire dans le plus profond de son cœur.
Alors, quand on s'imagine bêtement le désert, on imagine une étendue de sable à perte de vue, rien ni personne. Or, Isabelle, elle rencontre du monde pendant son voyage. C'est quand même très social, parce que sa vie est très sociale finalement.
Oui, mais elle a quand même besoin de solitude aussi.
C'est quand même ce qu'elle va chercher à la base.
Voilà, c'est ça. C'est ce qui lui plaît en premier lieu, c'est qu'elle veut vraiment fuir l'Occident.
Et qu'est-ce qu'elle a contre l'Occident? Justement, la colonisation, tout ce processus, ça la dégoûte en fait.
Je pense qu'elle a été son éducation, oui. Comme il a
puis
été dit,
ce père qui l'a pas reconnu,
elle avait avec une éducation extrêmement stricte, extrêmement sévère, d'après ce qui est dit. Et d'ailleurs, tous les enfants de Natalia ont fui petit à petit, et donc Isabelle voulait fuir aussi. Et L'Orient, effectivement, lui apparaissait comme un havre de liberté absolue dans une solitude potentielle possible.
Mais est-ce que vous la voyez, vous aussi, comme une révoltée, une rebelle qui fuyait, évidemment, les hypocrites, les préjugés, les conventions sociales de cette époque?
Oui, bien sûr. Je pense qu'elle avait été éduquée dans l'anarchie. Enfin, son père était anarchiste quand même, convaincu. Donc je pense que tout ça, effectivement, l'a forgée dans ne pas accepter les normes et ne pas accepter les règles. Et en plus, elle voulait effectivement se connaître et se rencontrer. Parce que vraiment, il y a une exploration extérieure, c'est-à-dire qu'effectivement, aller à la rencontre du désert et de cet Orient qui la fascine totalement depuis très longtemps. Et également, effectivement, cette quête de soi-même, en fait. et que dans cette solitude, elle le dit, parce qu'elle a écrit des milliers de pages, hein, Isabelle, en plus, elle voulait être écrivaine, c'était vraiment son but aussi, avant tout. Et dans cette solitude, en fait, elle raconte combien elle va découvrir effectivement son intérieur profond et en même temps, du coup, pouvoir justement avoir des vraies relations avec énormément de gens qu'elle respecte beaucoup et qu'elle aime profondément.
On parle d'Isabelle Eberhardt, la vagabonde des sables. Vagabonde des sables, Isabelle Eberhardt l'est parce qu'elle a réussi à mener ses expéditions, ce qui à l'époque est complètement dingue. Elle réussit à le faire parce qu'elle se déguise en homme. Si elle ne s'était pas déguisée en homme, elle n'aurait pas été si loin.
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, quand on est un garçon, c'est quand même plus facile que quand on est une femme, globalement. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, elle se dit effectivement que, d'abord, au niveau vestimentaire, c'est beaucoup plus pratique. Dans le désert, avec des grandes robes, c'est pas très, très, très pratique, on va dire. Et puis, en plus, ce qu'elle cherche aussi, c'est se fondre dans le paysage pour se rendre invisible et pour mieux voir. Et elle se rend compte que quand on est habillé en femme, on attire des regards de manière totalement différente et on ne peut pas être invisible. Or là, elle a envie d'être invisible pour vraiment pouvoir observer tranquillement.
On avait déjà vu ça avec une autre exploratrice dans cette émission, Jeanne Barret, une botaniste qui avait embarqué sur l'exposition de Bougainville, qui s'était déguisée en homme aussi pour disparaître aux yeux hommes, le regard des hommes. Est-ce qu'elle se sentait libre ou est-ce qu'elle l'était vraiment? Parce que cette liberté va lui coûter cher finalement.
Oui, alors ça va lui coûter cher, elle ne le savait pas forcément au moment où elle décide de partir et de faire ce qu'elle a envie de faire. Je pense que oui, ce qu'elle recherchait, c'était vraiment de sa liberté extérieure, sa liberté intérieure. Je pense qu'elle était consciente quand même du prix qu'elle avait à payer pour ça. Parce que dans ses écrits, il y a des moments où elle dit, voilà, là, au milieu de ces contrées isolées, où je suis dans le plus parfait dénouement, eh ben c'est là que vraiment je peux contacter mon âme et que je sais que la vie vaut d'être vécue.
Elle n'a jamais été déçue parce qu'elle fait tous ces kilomètres pour aller voir le désert, pour vivre cette expérience mystique. Vous avez raison de dire, c'est aussi un voyage initiatique à l'intérieur d'elle-même.
Et sans Sheraton au bout, comme vous, quand vous vous rendez dans le désert un petit peu du monde entier, il n'y a pas l'hôtel, il n'y a pas le confort qui va avec, c'est ça qui vous parle, Stéphane.
Un bivouac, la douceur
et la sensualité du sable chaud.
Ça suffit.
Ça, c'est une vue de l'esprit, on est d'accord. Parce que quand vous êtes dans le Sahara, vous mettez le pied nu par terre.
Je sais bien, ça ressemble à
un supplice du Moyen-Âge.
Mais justement, on parle de mode de vie. Quel genre de vie elle mène, Isabelle Eberhardt, entre 20 et 27 ans? Quand elle est dans les airs, Stéphane l'a dit, elle a de graves problèmes de santé. Vous racontez aussi qu'à court d'argent, elle est parfois réduite à l'état de clocharde du désert.
Totalement.
C'est romanesque, mais du mauvais côté. Enfin, c'est une vie vraiment difficile qu'elle mène.
Oui, c'est une vie difficile. Elle se bat effectivement pour trouver de l'argent. À un moment donné, effectivement, elle attend la vente de la maison de sa mère en Suisse, puis les fonds n'arrivent pas. Donc elle est clochardisée complètement, effectivement. Elle vit de petits expédients. Après, elle écrit toujours, donc elle arrive quand même de temps en temps à passer des articles à différents journaux algériens. C'est vrai qu'elle finira par être vraiment reporter de l'Akbar, mais ça, c'est juste au moment où justement elle commence à bien s'installer, c'est là que
la coulée de boue
va arriver.
Mais juste avant, je racontais qu'elle a échappé à une tentative d'assassinat. Oui. Qui lui en voulait? C'était les colonisateurs français ou est-ce que c'était les communautés musulmanes qui voyaient cette femme débarquée, habillée en homme?
Ça reste mystérieux. Il est dit effectivement que c'est une confrérie opposée à celle dans laquelle elle avait été initiée, parce que Isabelle avait été la première européenne à être couane. Après, comme elle était aussi suspectée d'espionnage au profit de certains chefs spirituels de ces confréries, mais aussi pour l'armée française, mais aussi à un certain moment, il semblerait qu'il y ait une Française qui lui est demandé d'aller enquêter sur la disparition mystérieuse de son époux dans le sud algérien. Bref, elle était très... Voilà, il y avait une aura de subversion et de suspicion sur Isabelle, mais on est sûr de rien, on ne sait pas, surtout qu'en plus, au procès, elle a vraiment pardonné en fait son agresseur, puisqu'elle était déjà dans sa quête...
Mystique un peu.
Et où effectivement elle avait beaucoup de compassion pour cet homme qui, disait-elle, ne savait pas pourquoi il avait fait ça et qu'il était le jouet de force qui le dépassait.
Ce qui est fou, c'est qu'elle parlait arabe, elle s'était convertie à l'islam, elle vivait avec les bédouins, Et puis, il réussissait à rester ami avec Lyautey.
Oui, il l'admire beaucoup parce que justement, quand lui, il arrive, c'est parce que comme l'armée française et les colonisateurs français ont été extrêmement durs, racistes, etc., et ne voulaient pas effectivement accepter les traditions et respecter en fait les colonisés, il y avait effectivement beaucoup de tensions. Et Isabelle, en fait, elle avait vraiment des rapports très vrais, très respectueux, très humains, avec, et notamment avec tous les chefs religieux. Et il comprend, il a l'intelligence de comprendre qu'elle est effectivement le trait d'union qui leur manque.
Formidable, ouais. C'est une preuve d'intelligence. En tout cas, merci Virginie Grainer. Je rappelle votre bande dessinée, Isabelle Eberhardt, La Vagabonde des Sables, parue chez Glénat.
Merci
d'avoir
été
avec nous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, historiquement vôtre. Vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec celle qui est pourtant du genre à en faire toujours une histoire. La grande, illustrissime Clémentine Portier-Kaltenbach,
l'illustrissime,
qui nous
entraîne
elle aussi dans le désert à sa manière. Ah, oui. Vous savez que, je suis là pour étaler, mais il y a des...
Étaler quand même.
Un prédicat qui... Son Altesse illustrissime.
Oui, illustrissime, c'est une terminologie qui est usitée.
Oui. Oui.
Qu'est-ce que vous voulez me demander, là, pour être aussi
que vous me parliez de Jacques le Baudit.
Alors, je vous emmène, donc à la Belle Époque, parce que Jacques le Baudit, qui est un multimillionnaire, héritier des sucres du même nom, les sucres le Baudit, et il s'ennuie ferme dans son hôtel particulier de la rue de Berry. À part le boursicotage, les chevaux de course, ça l'émeut à peu près. Mais la seule chose qui le déride, c'est de voyager. Il rêve de devenir célèbre et de découvrir quelques terres inconnues. C'est encore possible à l'époque. Et justement, un jour, il doit être dans son hôtel particulier rue de Berry, il examine une carte d'Afrique. Et puis tout d'un coup, il remarque face aux îles Canaries un territoire désolé, coincé entre sud du Maroc et Mauritanie française. Il se dit, mais ce coin-là, ça appartient à personne, c'est libre.
Libre
de droit, c'est ça. Un projet germe alors dans son esprit fertile. Et s'il débarquait sur cette terre, sans déclarer propriétaire, il créait des villes modernes, un port, un chemin de fer reliant l'Algérie au Sénégal. Et oui, alors aussitôt dit, aussitôt fait. Je le répète, il est très très riche. En mars 1903, il embarque à bord du Frasquita, sa goélette, et il fait route vers son futur royaume. Alors,
c'est génial.
Il est fini par
il
débarquer.
Il a passé deux, trois coups de fil avant pour voir s'il y avait quelqu'un.
Alors, non, parce que le téléphone n'était pas encore
c'est
à ce point
qu'il avait pas passé de
développé,
de fil.
Notamment dans le futur royaume de Jacques le Baudit. Il débarque le 25 mai. Tout d'un coup, imaginez ça, il surgit de sa cabine, et pas en civil comme vous et moi, il est costumé en général. Il ressemble à un sapin de Noël.
C'est
ployant.
La photo que vous m'avez donnée.
Oui, c'est ça. Je vous ai donné la photo. Regardez-le sur Google, il est très pittoresque.
Il est vraiment rigolo.
On dirait un général soviétique, il ploie sous les décorations et il est des 7 minutes, il exige de son équipage qu'il ne l'appelle plus que Sire. Examinons les lieux à la jumelle depuis le Frasquita, il déclare solennellement « Voici mon empire !» Ah putain, son empire, c'est du sable à perte de vue, il y a quelques palmiers déplumés sous un soleil torride. Peu importe, aux yeux de Le Baudit, c'est la terre promise. Alors, après une première prise de possession, il part à Las Palmas, aux Canaries, d'abord pour trouver une chambre d'hôtel un peu confortable. Et puis de là, pour administrer son futur royaume, il faut des hommes, du matériel, du ravitaillement, tout en fait. Alors, avant toute chose d'ailleurs, il faut régler les questions de protocole essentielles. Alors, notre homme s'autoproclame Jacques Ier, empereur du Sahara. Et il complète son titre du nom de territoire voisin de son empire. Roi des oasis de Choukanaïa, prince de Tartafouya, duc d'Anols.
Il plaisante pas du tout.
Tout ça est très très sérieux.
Ça rigole pas.
C'est pas du tout. Il y croit. Hein. Il se choisit un drapeau blanc avec croissant et étoile d'or. Il commande un trône à Paris. Parce que dans le faubourg Saint-Antoine, j'imagine, du papier à lettres officielles, des armoiries très amusantes, parce qu'en fait, c'est deux lions rugissants qui soutiennent une sorte de mascaron de médaillon dans lequel il y a un laboureur. Et puis, il faut une devise, naturellement, quand vous avez un nouveau royaume. Alors, la sienne sera liberté de conscience, force, travail, industrie, commerce, agriculture.
Non, ce n'est pas une devise, c'est un programme.
Oui, c'est un programme.
Il n'avait pas le sens de la devise.
La devise, c'est labor improbus omnia vincit. Un travail acharné vient à bout de tout. Bon, jusque-là, on ne peut qu'adhérer. Hein. Il fait recruter à Paris des sous-officiers en retraite parce qu'il lui faut, il faut constituer une garde impériale.
Et tout ça, c'est avec le sucre.
Ah ben, c'est avec l'argent du sucre. Il recrute aussi une vingtaine de marins pour constituer une force de débarquement, des colons à qui on a proposé des salaires extraordinaires pour l'époque, une sécurité sociale, enfin vraiment, ça donne envie plutôt d'y aller. Et puis, il va en Suisse pour recruter des ingénieurs et des fonctionnaires. Et puis, tenez-vous bien, il embauche même un diplomate pour s'installer à La Haye, parce que le jour où son empire du Sahara sera reconnu, faudra être représenté auprès des gouvernements d'Europe et d'Amérique. Alors bon, en juin, il se lance dans l'exploration de son futur royaume. Il est là, au milieu des dunes, entre trois palmiers, enfin c'est vraiment aucun intérêt. Et tout d'un coup, il tombe en arrêt au pied d'un palmier, il dit « Voici l'emplacement de ma capitale, elle se nommera Troya ». Là, il laisse sur place 5 soldats avec une malheureuse toile de tente. Lui, il repart canoté sur sa frasquita. Là. Et puis, les 5 représentants habitants de Troya sont capturés par des bédouins. Ils vont être vendus comme esclaves au Cap Juby parce que le body a refusé de payer un centime pour payer leur rançon. Bon, alors, aux joies tout de même. Grosse satisfaction dans ces difficultés. Un délégué de la République du Libéria qui vient reconnaître officiellement en sa personne l'Empire du Sahara. C'est le seul qui va reconnaître son empire. Alors, inutile de vous dire que pendant ce temps-là, en France, tout le monde se fiche de lui. Oui. Il fait la une des journaux satiriques. Bah, il voulait être célèbre. Hein. Et bah, il est servi. Mais bientôt, il va être pris dans différents procès, notamment les anciens otages qui viennent lui réclamer des indemnités. Il n'a pas payé des uniformes. Enfin, tout ça commence à sentir le roussi. Du coup, il est complètement écœuré. Il liquide tous les biens qu'il a en France et il commence une vie d'errance avec son époux. Évidemment, l'impératrice Augustine, qui bien souvent met sa couronne et sa traîne dans les hôtels où elle se propulse. Et leurs majestés en exil finissent par s'installer à New York, où le body ne se déplace jamais autrement qu'à cheval, escorté par 50 boys qui eux aussi sont à cheval. Et un jour, mais tenez-vous bien, parce qu'on est quand même en 1915 à ce moment-là, un jour, sa cavalerie personnelle en armes interrompt toute la circulation dans Broadway. 1915. Un policeman lui vient le voir en disant « Écoutez, monsieur, qu'est-ce que c'est que ces simagrées, cette comédie ?» Le body ordonne à ses boys de charger en plein Broadway. Évidemment, les boys pas si bêtes ont décampé. Lui, il est tout seul, dressé sur ses éperons, sur son cheval, en disant « Comment ? Mais ne touchez pas Jacques Ier, empereur du Sahara !» Bon, le policeman appelle une ambulance et on l'emmène à l'asile d'aliénés le plus proche. Alors, on ne sait pas grand-chose des années qui suivent, mais avec son épouse l'impératrice, les scènes de ménage sont de plus en plus violentes, à tel point que le 11 janvier 1919, exaspéré par les coups reçus, barricadé dans la salle de bain, tandis que le body tente de l'enfumer à l'ancienne.
Mais non.
Eh oui, mais si, la malheureuse impératrice se saisit d'un revolver, elle en tire plusieurs coups sur son impérial conjoint. Ainsi disparaissait Jacques Ier, roi de Choucaïa, prince de Tartafouya, duc d'Anols, qui au lieu de vouloir être empereur d'un tas de sable au Sahara, aurait mieux fait de se contenter de rester le roi du sucre en poudre de la rue de Berry. Ah oui,
elle s'est pas lancée après dans la lingerie, le body.
Très bien, merci pour cette belle... Oh, c'est excellent Stéphane. Est-ce que serez-vous aussi brillant dans le quiz?
Oh non, je
ne sais pas.
Oh, vous avez non.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
C'est une séquence de l'émission qui nuit beaucoup à l'esprit d'équipe, mais qui personnellement, en tant que mec fondamentalement odieux, me ravit. Car si le quiz commence souvent courtoisement, il se finit toujours par Clémentine hurlant...
Menteur, oh le bluffeur. Espèce de guerluchon.
À Stéphane, qui ne sachant pas ce qu'est un guerluchon, n'en prend pas ombrage. Jouons à Burn to be Alive, notre célébrissime quiz. Mon cher Stéphane, c'est vous qui allez devoir répondre à la première question comme le veut l'usage. Georges Eugène Haussmann, plus connu sous le nom de...
Baron Haussmann.
ça ne valait pas de points, mais c'est bien, a été un des grands maîtres d'œuvre des transformations parisiennes du Second Empire, comme vous le savez. Il avait aussi inventé un système de morgue où les cadavres étaient visibles par tous grâce à une vitrine. C'était censé aider la police à donner un nom aux morts non identifiés. Vrai ou faux ?
Je crois que c'est vrai.
Oui.
Là, la réponse a fusé dans votre esprit.
C'était une destination touristique très connue et très prisée des Parisiens. Ça nous paraît insensé aujourd'hui, mais
C'est-à-dire que les Parisiens allaient...
Oui, bien sûr. L'accès était public, on pouvait aller se promener à la morgue et voir les morts.
On emmenait son enfant, l'enfant, mais on va voir les morts.
Vous avez gagné.
Viens voir papy. Ça aurait été une belle chanson, ça. Viens voir papy. Viens voir papy. C'était la morgue de Paris, derrière la cathédrale Notre-Dame. On estime à plus de 40 000 personnes qui ont pu voir cet étrange spectacle. Et c'est vrai que les touristes se pressaient. Ça s'est fini un 15 mars 1907 par volonté, je cite, d'hygiénisme moral. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Je dis à Stéphane Bern que c'est un goujat. Ça signifie qu'il est peu aimable avec la gente féminine. Mais au XVIIIe siècle, un goujat était un homme posté dans la cour pour avertir les malfrats quand la maréchaussée débarquait. Vrai ou faux ?
J'aurais plutôt spontanément pensé que goujat devait avoir un rapport avec goujon et avec le poisson. Pourquoi c'est quelqu'un qui aurait été... Et tout ça ne me dit rien du tout. Non, c'est pas ça. Ça ne me dit rien du tout. Je ne connais pas cette anecdote. Mais non, ça ne me dit rien. Je vais dire non.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse, Clémentine. Est-ce à dire que ça a à voir avec le poisson et le goujon ? Non. C'était au XVIIIe siècle, figurez-vous. Le goujat, c'était un soldat de second ordre chargé d'aller récupérer les armes abandonnées sur les cadavres une fois la bataille terminée.
Ah, magnifique anecdote. Ouais. Mais c'est plutôt un terme qu'utiliserait une femme en s'adressant à un homme.
Le sens a changé au fil du temps, mais c'était quelqu'un pas très bien intentionné, mais pas très bien vu, en tout cas au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, toujours, mais nous sommes en Angleterre maintenant. C'est là que le mot snob est né. En traversant la Manche, en France, il donnera entre autres le mot zob, qui signifie, je vous l'accorde, tout autre chose. Vrai ou faux, Stéphane ?
Non, Stéphane.
Non, pas du
snob,
tout.
C'est sine nobilitas.
Sine nobilitas.
Et c'est zob, dans les registres, c'est un mot arabe.
Par exemple, dans les registres.
Stéphane,
quand,
Stéphane.
Oui.
Vous vous dites toujours que je suis contre vous dans ce quiz, que j'essaye absolument de vous déstabiliser, de vous faire perdre. Oui. Je vous le dis, réfléchissez bien. C'est au XVIIIe siècle en Angleterre que le mot snob est né.
Oui,
en traversant
vrai.
La Manche, en France, il donnera entre autres le mot zob qui signifie tout autre chose. Vrai ou faux ?
Le mot snob en traversant la Manche a pris un autre sens.
Surtout que ce n'est pas un mot anglais puisque c'est une expression latine. C'est sine nobilitas, le mot snob.
C'est là où ce n'est pas clair, si vous voulez, c'est que sine nobilitas, c'est ce qu'on mettait dans les registres des collèges anglais.
Qui signifie ?
Sans noblesse. Mais sans noblesse, donc, comme ils n'avaient pas de noblesse, ils n'étaient pas très bien élevés, ils étaient un peu prétentieux.
Bon, votre réponse, vrai ou faux ?
Qu'est-ce que ça a donné zob ?
Je
ne
pense
qu'on vous
pas
demande.
Que ça a donné zob en traversant
donc
la Manche.
Donc vous répondez ?
Bah, c'est faux.
Vous avez gagné !
Je vous ai bien orienté vers la bonne réponse.
Mais c'est faux,
vous
mais en l'espèce de mangouja, c'est faux, vous avez essayé de l'induire en erreur.
Vous avez raison, Stéphane. Snob vient de la contraction, vous l'avez dit en latin, de sine nobilitate, et non pas nobilitatis, vous avez comme une petite erreur de déclinaison, mais ça arrive au meilleur.
Oui, parce que c'est le
ce qui signifie sans titre de noblesse. Et c'est ce qu'on marquait à côté des noms des étudiants qui rentraient à l'université de Cambridge sans avoir le titre de noblesse.
Exactement. Et c'est pour ça qu'ils étaient prétentieux, parce qu'ils n'avaient pas de noblesse, et donc... On ne peut pas être snob
si on
est
noble.
Non.
Brumel.
D'une manière
mais
générale,
pourtant,
non.
Moi, je connais des nobles snobs.
Non.
Ils ne sont pas snob, ils sont d'autres choses.
Ils ont usurpé leur nom.
D'accord. Question, il défendra les nobles jusqu'au
non,
bout.
Non, c'est pas
question
pour les défendre, parce qu'ils ont d'autres défauts.
Oui, ils
peuvent
être...
avoir de la morgue, ils peuvent avoir de la suffisance
mais
ou des insuffisances.
Mais par définition latine, ils ne peuvent pas être snob.
Exactement.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Le Dalai Lama a dit « Les hommes perdent leur santé pour accumuler de l'argent, puis perdent de l'argent pour retrouver la santé. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Voici ma question. Est-ce que Rikazaraï est plus ou moins âgé que le Dalai Lama ?
Elle avait 83 ans. Le Dalai Lama a-t-il 83 ans ?
Alors attendez, il a été...
Mais n'aidez pas, je vous...
mais si,
Clément,
il peut m'aider, moi,
59, c'est la fin de l'indépendance
Du Tibet.
Du Tibet.
Et il était, il avait 5 ou 6
il
ans.
Avait, oui, il avait été élu.
Non, pas 5.
Alors,
pas
élu. Élu, non, parce que le
Dalai Lama. Quel âge avait-il ? Tout est là. Que ce soit l'indépendance du Tibet, c'est une bonne chose. Ben, mais enfin, est-ce qu'il a 20 ans ou est-ce qu'il en a 5 ?
Si vous n'avez pas le bon âge, est-ce que, au départ,
à quel âge,
vous
à quel âge,
le bon âge à la fin,
c'est pas quand on est enfant qu'on est désigné Rinpoché.
Oui, c'est Rinpoché.
Mais là, il est devenu. Mais est-ce que le vrai Dalai Lama meurt en 59 ? Ce qui compte, c'est pas l'indépendance du Tibet, c'est l'âge auquel lui, Rinpoché.
C'est génial, le degré de complexité dans lequel on est entré. Bon, on était sur
Rick Azaray. Moi, je ne sais pas pourquoi.
Rick Azaray était-elle plus âgée ou plus jeune que le Dalai Lama au moment du décès de Rika?
Moi, je pense que Rick Azaray était plus jeune.
Vous avez gagné.
Égalité, puisque nous avons une bonne réponse. Elle nous a quitté, Rika, en décembre dernier, à 82 ans. Le Dalai Lama à 85 ans. Question numéro 5 pour vous deux. C'est la question qui vous départage. Question de rapidité. On attend bien que j'ai énoncé toutes les propositions.
Bien, chef.
Composée en avril 1792, la Marseillaise de Rouget de Lisle a été définitivement adoptée comme hymne national en 1879. C'était également le cas de 1795 à 1804. On ne connaît pas beaucoup d'autres chansons de cet officier français du génie. Quelle autre chanson lui doit-on ? 3 propositions. Vive le roi, La Parisienne ou Sarah Perchetti Amo ?
La Parisienne ?
Moi, je dirais Vive le roi, ce serait plus paradoxal. Il aurait composé une œuvre aux antipodes idéologiques de celle qui allait le rendre célèbre par la suite. Je dirais un mot.
Victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. Et oui, Stéphane,
ouais, c'était tombé dans le panneau.
En 1814, pendant la Restauration, une façon d'être royaliste et en même temps républicain. Histoire de remettre la perruque de Stéphane Bern à l'endroit, voici quelques secondes de Vive le roi.
Vive le roi, vive à jamais, vive le roi.
Magnifique, Stéphane.
Je connaissais cette chanson.
Ah, vous la connaissez ?
Oui, c'est
dans
sur
les booms, vous les
c'est sur un disque.
Ouais, bah,
sur
c'est
un
pas
disque.
La Marseillaise. Hein, ça pas non, la... Non. De toute façon, il a composé des choses assez médiocres, hein, Rouget de Lisle. Ouais. Le petit poème qu'il compose à Strasbourg avant la Marseillaise.
Je milite pour qu'il aille au Panthéon.
Oui, mais moi aussi, je milite pour qu'il aille au Panthéon pour la Marseillaise. Mais par ailleurs, c'est l'esprit républicain qu'il a transcendé comme artiste. Vous voyez, c'est ça. Vive la République.
Il a quand même écrit Vive le roi. Du coup, il jouait un peu
sur
plusieurs tableaux.
Parce que les temps étaient difficiles.
C'était un sacré filou.
Fallait bien manger. Hein.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur de 2 heures d'histoire, mais contrairement à ce que vous ressentiez au milieu des 2 heures de votre cours d'histoire de première où vous piquiez du nez, chez nous vous avez plutôt envie de vous exclamer, Stéphane !
Hip 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 hourra !
Vache, mettez-y un peu plus de conviction, hip 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 hourra ! Encore 1 heure d'histoire déconnante avec Stéphane Bern.
Et Mathieu Noël, youpi !
Youpi, car cet après-midi nous partons à la rencontre des dieux du sable. Et non pas des dieux du stade, vous aviez compris l'astuce Stéphane, je pense.
Oui, absolument Mathieu. Les rugbymen tout nus, ça sera une prochaine fois.
Mais oui, la semaine prochaine.
Mais je reviendrai. Après Isabelle Everard, pionnière du désert, je vais vous raconter le destin exceptionnel de René Caillédi, l'Africain. Un explorateur français qui fut le premier à atteindre Tombouctou et surtout en revenir vivant.
Je salue la performance de René, mais pour ma part, je prendrai des nouvelles d'un dieu du sable plus proche de nous. Il a conduit la première voiture connectée du monde.
Alors, mon petit, si on s'éclatait un peu tous les deux ?
Michael, tu connais mon point de vue à ce sujet.
Accroche-toi, mon vieux !
Il a pécho Pamela Anderson à l'époque où elle s'était pas encore fait dégonfler les boobs. Que devient David Hasselhoff ?
Rien.
Vous êtes odieux, Stéphane, détrompez-vous. David pète la forme, comme nos deux précieux acolytes qui ont bien connu Alerte à Malibu, à mon avis.
Ah bah
c'était
oui.
La génération, vous, les gars ? David, ben, Olivier ?
Bah oui.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on on l'a regardé.
Vous êtes si vieux que ça, là ?
Non, c'est les années 90, quand
vous
étiez au collège.
On vous appelait l'aspirateur à minette.
Dieu du ciel. J'aurais adoré qu'on m'appelle comme ça en 1995. Oui.
Mais c'était pas encore le cas, c'est plus tard
mais
que son
en
charnage.
Même temps, puisque c'est comme ça que vous est venue l'idée
de
raconter les origines de l'aspirateur.
Tout à fait. C'est plutôt des aspirateurs. Je parlais de l'aspirateur qui aspire des vrais trucs plutôt que des trucs métaphoriques comme les minettes.
Mais est-ce que vous allez parler de l'aspirateur Dyson ? Je ne sais pas si je vous ai déjà dit les aspirateurs Dyson étaient quand même assez exceptionnels.
Non, mais James Dyson fait des choses incroyables.
Olivier Pouls, vous êtes pile dans la thématique.
Quand j'ai mangé mes petits sablés, pour être tout à fait dans la thématique, et que j'ai fait des miettes, je sors mon Dyson.
Ah, aussi, vous aussi. Donc le modèle à la main.
Oui, celui à la main.
Effectivement. « Attire-larigot », voilà une expression qu'on n'utilise plus tous les jours, sauf vous, Stéphane.
On utilise « attire-larigot ».«
Attire-larigot », oui.
Assez peu, Stéphane. Dans les SMS, on met assez peu « attire-larigot ».
Eh bien, je vous dirai d'où ça vient. Il y a plusieurs explications.
Ah, j'aime pas, parce qu'à chaque fois, on y voit. Et vous nous dites à la fin, choisissez celle que vous préférez.
Disons que « larigot », c'était quelque chose. Moi, j'aime bien la deuxième explication, où on tirait dessus. On allait tirer l'arigot.
Mais qu'est-ce que l'arigot ? Restez avec nous, rien à voir avec l'aligot, en tout cas d'après ce que je sais. Tout de suite, nous plongeons Stéphane dans une période de l'histoire chère à votre cœur. Le temps béni des colonies. Découvrons l'histoire de René Caillé, dit l'Africain.
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Vous allez découvrir que ce jeune explorateur inexpérimenté a fait preuve d'un immense courage. Explorer les continents, et en particulier l'Afrique, n'est pas une lubie que René Caillé a eue sur le tard, mais une soif de voyage qui se manifeste dès l'enfance. Très tôt, René Caillé rêve de parcourir le monde. Né en 1799 à Mouzé-sur-le-Mignon, à 40 km de La Rochelle, il est issu d'une famille très modeste. Son père, boulanger de formation, est envoyé au bagne pour avoir volé. Sa mère disparaît alors qu'il n'a que 12 ans. Recueilli par sa grand-mère, il est raillé par ses camarades de classe. Solitaire, le petit René trouve alors refuge dans la lecture. Son ouvrage favori ? Les aventures de Robinson Crusoe. Il dévore ce livre et se prend à rêver à son tour de découvrir des territoires encore inconnus. Dans les auberges, il est captivé par le récit des marins racontant leur traversée pour les Antilles, mais une ville le fascine par-dessus tout, surnommée la ville aux portes d'or, la perle du désert, Tombouctou, en Afrique, ne quitte plus son esprit. Pourtant, jusqu'à présent, aucun explorateur n'en est revenu vivant. On raconte que c'est une cité riche, aux maisons recouvertes d'or et de pierres précieuses. Tombouctou est source de bien des convoitises chez les Européens. France, Angleterre, Portugal, chaque nation fait tout pour conquérir ce territoire sauvage et inexploré. Pas encore adulte, alors qu'il est apprenti cordonnier, René Caillé se jette à l'eau. Il embarque pour son premier voyage. Et il n'est pas seul. Une vaste expédition s'élance dans l'espoir de récupérer le Sénégal au nom de Sa Majesté, le roi Louis XVIII. Malheureusement, l'un des bateaux, la Méduse, fait naufrage. 160 hommes perdent la vie, dont 147 qui s'étaient réfugiés sur un radeau. Une triste scène qui inspirera à Guirico son célèbre tableau « Le radeau de la Méduse ». Heureusement, René Caillé est, lui, à bord d'un autre bateau. Arrivé à bon port, à Saint-Louis du Sénégal, il veut aller plus loin, découvrir des contrées encore vierges parmi elles, la ville de Tombouctou. Caillé apprend qu'une expédition anglaise est prévue vers le centre de l'Afrique. Le point de départ est à 300 km. Qu'à cela ne tienne. Si René n'a que 16 ans, il est persuadé qu'il peut rejoindre les ressortissants anglais à pied. La tentative est un échec cuisant. D'abord à cause du soleil qui cogne en permanence sur l'explorateur en herbe, mais aussi parce qu'il s'est mal préparé. Il a peu de provisions, un manque d'eau, des vêtements pas adaptés. À bout de force, les pieds ensanglantés, il est recueilli par des marins français à Dakar. René Caillé n'a pas dit son dernier mot. Il se jure de revenir en Afrique et d'être le premier explorateur à découvrir la mystérieuse Tombouctou. En 1817, il est de retour au Sénégal. Il réussit à s'infiltrer dans un convoi dont l'objectif est de libérer une expédition anglaise otage d'un roi local. Mais la mission échoue et surtout René tombe gravement malade. Fièvre, ulcère, le français a toujours eu la santé fragile et il rentre à Saint-Louis du Sénégal profondément affaibli. Cuisinier, il est employé d'une maison de négoce à Bordeaux. Il voyage, mais pas là où il souhaiterait. Vous l'avez compris, Tombouctou hante ses jours et ses nuits. Alors en 1824, adieu la France, René Caillé pose ses valises à Podor, au Sénégal. Cette fois, hors de question de venir se greffer à une quelconque expédition existante. Caillé veut être maître de son destin. Il monte un projet extrêmement risqué, rejoindre Tombouctou en se créant une nouvelle identité, car la cité est interdite aux non-musulmans. René Caillé n'est plus. Place à Abdallah, esclave de Dieu. Notre nouvel homme serait donc né à Alexandrie, de parents arabes, ramené en France par l'expédition de Bonaparte, devenu esclave plus affranchi. Il aurait décidé de retourner en Égypte pour retrouver sa famille. Pendant un an, il apprend l'arabe, lit le Coran, se muscle pour tenir la longue marche, s'habille avec un costume traditionnel. Pour financer sa mission, il sollicite le gouverneur. Mais la demande est refusée parce que jugée évidemment trop dangereuse. René Caillé risque, comme ses prédécesseurs, d'être assassiné. Sa sœur, restée en France, lui envoie alors une coupure de presse. La Société Géographie promet une récompense de 10 000 francs à celui qui parviendra à revenir vivant et avec des informations sur la ville de Tombouctou. René y voit là un signe. L'heure du départ a sonné. En avril 1827, il a 26 ans et René Abdallah intègre une caravane. Ces convois qui commercent un peu partout, en revendant du sel, du tabac, des plumes d'autruche, du cuir et autres produits. Le voyage est exténuant, chaleur, marche dans le sable brûlant, la soif. Le Français souffre, hein. Sa santé se dégrade et en plus il contracte le scorbut. Mon palais fut entièrement dépouillé, une partie des os se détachèrent et tombèrent. Mes dents semblaient ne plus tenir dans leurs alvéoles, mes souffrances étaient affreuses. Il ne me restait qu'une seule pensée, celle de la mort. Je la désirais, je la demandais à Dieu, racontera-t-il. Pendant 5 mois, notre héros est obligé de mettre en pause son expédition. On raconte qu'il ne doit son salut qu'à une vieille femme africaine qui chaque jour lui apporte un peu d'eau de riz. Quelques mois plus tard, le 20 avril 1828, enfin, René Caillé atteint son but. Tombouctou s'ouvre devant lui. Passé l'enthousiasme des premières minutes, le jeune explorateur confie une certaine déception. La ville n'offre au premier aspect qu'un amas de maisons en terre mal construites. Dans toutes les directions, on ne voit que des plaines immenses, de sable mouvant, d'un blanc tirant sur le jaune et de la plus grande aridité. Le Français, déguisé en Égyptien, ne reste au final que 14 jours à Tombouctou. Au sentiment mitigé s'ajoute la peur d'être démasqué et donc tué. Le voyage en direction du Maroc par le Sahara est tout aussi chaotique. Après 538 jours et 4500 km parcourus au total, René Caillé parvient à Tanger. En décembre, il empoche les 10 000 francs promis par la Société de Géographie. Héros à Paris pendant quelques mois, Caillé achète une ferme en Charente en se rendant rapidement compte qu'il est un piètre agriculteur, se marie, a 4 enfants avant de mourir à 38 ans. Son unique livre, Voyage à Tombouctou, dans lequel il compte sa folle aventure dans le désert, devient mondialement connu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de René Caillé, nous sommes avec l'historien Alain Kellavillégé. Bonjour.
Bonjour.
Alain Kellavillégé, vous êtes historien spécialiste des récits de voyage, auteur de René Caillé l'Africain, paru aux éditions Oberon. René Caillé, africain, il ne l'était pas. Pourvu le français, René Caillé l'est devenu vraiment. Et à quel moment? Pourquoi c'était si important aussi pour lui de devenir africain?
Ce qui était important, c'était au moins de devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'il est, vous l'avez dit, fils d'un bagnard, il est orphelin, il est un petit peu un sous-homme humilié. Et il a besoin de devenir quelqu'un. Alors se devenir quelqu'un, c'est d'abord de devenir Abdallah, d'avoir une autre identité qui va lui permettre de réussir son voyage, son périple jusqu'à Tombouctou. Et puis, africain, il est devenu parce qu'il y a beaucoup vécu et qu'il est resté, j'allais dire, par son adhésion à la culture, aux cultures africaines, à l'islam, par sa vie sauvage, on va dire, hors de la société française. Quand il revient en France, il est resté un Africain avec le désir d'y retourner. Voilà, donc un Africain blanc.
Mais est-ce qu'on peut faire un lien avec notre premier personnage du jour, Isabelle Hébérard, dont on parlait tout à l'heure, qui, elle, a aussi traversé le désert, elle était fascinée par aussi la civilisation, elle est même devenue musulmane. Lui, ce n'est pas son cas. Lui, quand il devient Abdallah, c'est uniquement pour pouvoir avoir accès à Tombouctou. Quand il prie Dieu, il prie son Dieu, le Dieu des chrétiens, pas le...
A été reproché des deux côtés, d'ailleurs, parce que c'est une grande transgression quand même très dangereuse de part et d'autre. C'est une manière, effectivement, de voyager, c'est son passeport, de se faire passer pour musulman. Mais il en a une parfaite connaissance. Comme Isabelle Hébérard, il y a la volonté de vivre à l'africaine, de vivre parmi les populations et comme les populations. Mais lui, évidemment, ne se sédentarise pas, parce que c'est un explorateur, c'est un voyageur, à la différence de ce qu'elle a fait. Mais par certains côtés, effectivement, ce sont des intercesseurs, en tout cas de culture, qui nous ont renvoyé et rapporté, en tout cas, leur vision avec beaucoup de tolérance d'autres civilisations, d'autres cultures.
Mais pourquoi Tombouctou fascine-t-elle autant? Parce que lui, c'est son rêve depuis toujours. Il est hanté. On raconte tellement de choses sur Tombouctou.
Alors, rêve depuis toujours, ça, je suis plus nuancé. Mais c'est un rêve, en tout cas, très collectif en France ou en Grande-Bretagne. Tombouctou, c'est une sorte d'Eldorado, vous l'avez dit. C'est un mythe. On connaît Tombouctou par des textes médiévaux, par des textes arabes. Mais les Occidentaux n'y sont pas allés, en tout cas, n'en sont pas revenus. Tombouctou, c'est dangereux, c'est inconnu. La carte de l'Afrique à l'intérieur n'est pas connue. Et donc, lui, il va avoir une logique, une stratégie d'ailleurs très habile d'incognito et de partir seul. Hein, il ne va pas avec une armée, il ne va pas avec des costumes militaires, il ne vient pas en conquérant, ce n'est pas un colonisateur. Et il se veut vraiment un géographe, un voyageur géographe, qui veut apporter des connaissances. Il ne travaille pas pour la France, pour l'Angleterre ou pour la Chine, il travaille pour la science. C'est ce qu'il veut. Revendique.
Alors, c'était dangereux d'aller à Tombouctou parce que, en fait, on se faisait trucider. C'est-à-dire que on ne laissait pas les Européens en repartir, c'est ça surtout.
Non, c'est clair. Celui qui l'a précédé, parce qu'il n'est pas le premier à y être allé, il y avait le Major Lang qui est allé en 1826, mais qui lui a été massacré en sortant de Tombouctou.
Mais pourquoi on se faisait trucider à Tombouctou? Pourquoi le Major qui
était... Il y a deux raisons principales. D'abord, il y a une raison religieuse, hein, c'est qu'on est quand même dans des régions qui ont un islam qu'on pourrait qualifier aujourd'hui très très radical, très intolérant. Le fait de se faire passer pour musulman alors qu'on ne l'est pas est particulièrement dangereux. Et puis, on a des royaumes et des pouvoirs politiques qui craignent l'espionnage, qui savent qu'il y a des menaces qui viennent d'Europe, qui viennent d'ailleurs, pour les dominer. Et donc, il y a évidemment une petite paranoïa politique et des pouvoirs qui s'entrechoquent. Donc, ces voyageurs dont on ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont sont de toute façon suspects.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il a été déçu par Tombouctou.
Mais finalement, oui.
Oui, c'est une déception, j'allais dire relative, elle est inévitable, parce qu'effectivement, voilà, c'est l'aboutissement d'un rêve, et la ville qu'il découvre est déjà une ville en déclin, une ville qui est en train de s'ensabler déjà, et puis le mythe était énorme par rapport à ce qu'elle avait été réellement. Donc, il y a une déception, il n'a pas pu y rester très longtemps, il reste effectivement 13-14 jours, et l'objectif, c'est quand même d'en repartir, parce que finalement... C'est bien d'être allé à Tombouctou, mais l'important, c'est d'en revenir.
De revenir vivant, c'est pour ça
vivant.
Comme ça qu'on a les 10 000 francs, si voilà. J'ai bien compris. Et il n'arrive pas à se réacclimater du tout en France. Hein.
On a
l'impression qu'il est un peu paumé.
C'est quelqu'un d'abord qui, socialement, par son histoire propre d'enfance et d'adolescence, est quand même déjà quelqu'un de marginal, qui vient d'un milieu, ce père bagnard, etc. Il fait pas partie des élites, il n'a pas suivi les cursus militaires ou d'études ou autres. Et ses années passées en Afrique, évidemment, n'ont rien arrangé. Donc il achète une grande propriété en Charente-Maritime, il devient agriculteur, mais il est resté quelqu'un de très marginal par rapport aux usages de la bonne société, effectivement, du moment.
Et quand on accomplit son rêve, après c'est difficile.
Mais oui, tout paraît fade, Stéphane.
Oui,
moi comme moi, travailler avec vous.
C'est comme moi,
ensuite,
aussi.
Voilà,
après, tout paraît fade. En tout cas, merci Alain Calavilégé, vous êtes pour tout savoir sur la vie de René Caillié, ben je vous invite, chers auditeurs, à lire René Caillié, l'Africain, paru aux éditions Oberon. Et lui aussi était surnommé l'Africain, la légende du Paris-Dakar, Hubert Auriol, dont nous avons appris d'abord il y a quelques jours. Alors forcément, on pense à ses proches aujourd'hui et à sa carrière de pilote légendaire.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre est consacré au dieu du sable. Ces hommes et ces femmes qui ont gravé leur légende sur le sable d'un désert ou d'une plage. Eh oui, parce qu'après Isabelle Eberhardt et René Caillié, vous nous brossez maintenant, Mathieu, le portrait 99% vrai d'une star des années 90 qui a énormément couru sur le sable de Malibu, en devenant lui-même une légende.
De Malibu, si vous voulez. Hein.
On dit Malibu ou Malibu.
Mais on peut dire, Johnny disait Malibu. Et vous pouvez dire comme vous voulez.
On dit comment ? En tout cas, vous allez nous parler de David Hasselhoff.
Oui, Stéphane. Alors, attention, j'ai parfaitement conscience du côté Madeleine de Proust de cette chronique. Pour vous, dont l'adolescence a été marquée par Salut les copains à la radio et Thierry Lafronde à la télé, David Hasselhoff, ce n'est qu'un vague souvenir, un grand blond rasé de près, exagérément musclé.
Eh ouais, le nazi, quoi.
Oui, à peu près. L'histoire de David démarre comme un conte de fées. Elle finit un peu comme Requiem for a Dream, mais elle démarre comme un conte de fées. David voit le jour à Baltimore, dans le Maryland aux États-Unis, doté par dame nature d'un physique que nous qualifierons de plus avantageux que celui de Roger Hanin. David, qui rêve de devenir acteur, tape dans l'œil d'un directeur de casting et fait ses débuts, un stéthoscope autour du cou, dans la série préférée de Stéphane, Les Feux de l'amour. Entre 1975 et 1982, il y incarne le docteur Snapper Foster, le fils de Bill et Liz Foster. Pour mémoire, Bill a abandonné lâchement Liz, qui a dû élever seul Snapper, son frère Greg et sa sœur Jill, qui nous l'apprendront plus tard, n'est pas sa sœur. C'est en 82, non, je vous le révèle, c'est en 82 que David passe la seconde au sens propre. Il devient l'idole absolue des amateurs de grosses cylindrées et de blousons cintrés en croûte de cuir de vachette en interprétant Michael Knight dans la série K2000, les tribulations d'un type qui combat le crime avec une Pontiac Firebird qui parle. Oui, il n'y avait pas encore Netflix pour payer correctement les scénaristes, d'où des dialogues surréalistes comme
« Mais qu'est-ce qui se passe ?
Tu t'es endormi au volant. Tu te souviens plus ?
Non, c'est extrêmement confus. Et en plus, je suis en train de parler à une voiture maintenant. »
Devant leurs écrans, la plupart des ados, David et moi en premier, se disent « Ouais, trop fort la voiture autonome !» Et ils reprennent du yop. Un seul d'entre eux se dira « Pas con la voiture autonome, je vais la construire. » Il s'appelle Elon Musk. Et aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, David et moi, on bosse à Europe 1. Et on n'a même pas eu l'échec. Non, on n'a même pas eu l'échec cadeau Noël parce que maintenant, ils sont dématérialisés. On n'a pas compris comment les activer numériquement. Elon, lui, aurait su. Bref, cette digression pour dire que parfois, la vie est une pute. Et David Hasselhoff en fera la mère expérience, lui aussi, vous allez voir. Mais à ce stade de notre récit, il surfe encore la vague du succès. Avec la série qui fera de lui une star mondiale, Baywatch, Alerte à Malibu en VF, Die Richtungsschwimmer von Malibu en allemand. Et il y a 30 ans, le monde découvrait le sauveteur Mitch Buchanan, la course au ralenti sur le sable, Pamela Anderson, des torses musclés scintillant d'écume, des scénarios tenant sur un ticket de métro, celui de Pamela Anderson. Une série qui, on le sait peu, a elle-même été sauvée de la noyade par David Hasselhoff, qui, pour éviter son annulation après seulement une saison, ça marchait pas top, a investi son propre argent et en est devenu le producteur exécutif. Résultat, une durée de vie prolongée de 11 ans et un code de vie rempli à ras-bord. Comme le soutien-gorge de...
Pamela Anderson.
Hasselhoff devient le fantasme de toutes les adolescentes et l'idéal masculin de tous les adolescents. Évidemment, sa vie privée s'en ressent. Autant vous dire qu'à l'époque de sa superbe, contrairement à David et moi devant notre écran, lui, il trempait pas son biscuit que dans un bol de lait. Un milliard de téléspectateurs dans 140 pays, ça aide à forger le mythe et à enchaîner les conquêtes. Au total, dans ces années-là, Davidou empoche près de 100 millions de dollars, ce qui, même selon les standards de Stéphane Bern, est correct. Ah ouais. Surtout, n'oublions jamais, ou rappelons-le aux incultes qui l'auraient oublié, David Hasselhoff est aussi un chanteur et carrément un demi-dieu du rock'n'roll en Allemagne, pays dont vous l'aurez compris, Hasselhoff est un peu originaire.
Il était également un petit peu nazi.
Non, David, tous les Allemands ne sont pas des nazis. Au printemps 89, il sort le tube Looking for Freedom, une reprise d'un titre allemand de 78, joliment intitulé Auf der Straße nach Süden.
Auf der Straße nach Süden.
À quel moment, quand tu entends ça, tu te dis, comme dans une chronique de Castello, « Tiens, c'est chambé, je vais la reprendre !» Eh bien, dans les années 80, où, rappelons-le, tout est possible en termes de goût. Mais les années qui suivent, l'arrêt d'Alerte à Malibu vont marquer le déclin de la star et son entrée à pieds joints dans le bac à sable de la loose. L'alcool aidant, Alerte à Malibu devient peu à peu Alerte au Malibu. La traversée du désert qui l'attend sera aussi douloureuse qu'un suppositoire au Tabasco. Une traversée du désert faite de cures de désintox peu productives, de divorces houleux et surtout de films alimentaires qui laisseront dans je viens de réaliser que film alimentaire, ça sonne comme le film alimentaire, le papier. De films, disons, à but alimentaire, qui laisseront dans l'histoire du 7e art une empreinte négligeable, malgré des titres prometteurs. Piranha 3D, Street Dancing Ninja, Piranha 3D 2, Sharknado, l'attaque des requins volants, ou Sharknado 3, la revanche des requins volants qui se déroule dans l'Himalaya.
Il y a des requins dans l'Himalaya. Allez,
c'est dans les scénarios de Sharknado, tout est
et
possible.
Volent, oui.
Les tabloïds britanniques nous apprennent qu'en juillet 2006, David est débarqué d'un vol British Airways parce qu'il est ivre. Son attaché de presse nie les faits et prétexte une mauvaise réaction aux antibiotiques. On vous le rappelle, les antibiotiques, c'est pas automatique, surtout mélangé au Jack Daniels. Mais c'est en 2007 que l'acteur touche vraiment le fond. Pour ne pas sombrer dans le pathos et ne pas effrayer les auditeurs les plus sensibles, nous appellerons cette séquence David et le cheeseburger magique. Il s'agit d'une vidéo. David Hasselhoff y apparaît copieusement bourré, bavant et essayant vainement de manger un cheeseburger à même le sol, Stéphane.
Non, c'est vrai.
Une vidéo filmée par sa propre fille, Taylor Anne, alors âgée de 16 ans, qui veut montrer à son père ce à quoi il ressemble sous l'emprise de l'alcool. Façon, tu t'es vu quand t'as bu. Le buzz retentissant de cette vidéo sera pour David un électrochoc et un signal qu'il était temps pour lui de se reconnecter à Dieu. Quand j'ai découvert la vidéo, j'ai été submergé par un incroyable sentiment de calme. Dieu m'a fait comprendre, il est temps d'arrêter. Et aux dernières nouvelles, Stéphane, David a trouvé en lui la force morale d'arrêter. Olivier, vous pouvez nous le confirmer.
La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est tapé une bouteille de pommard dans ce studio
Non.
Même.
Ah oui, non. Ah oui, il a presque s'est arrêté. Il a disons, diminué sa consommation, c'est déjà beau. En attendant, pour le plaisir, je vous invite à découvrir sur YouTube, ce que je n'hésite pas à qualifier de perle, un moment autrement plus surréaliste que la pipe de René Magritte, car ceci est bien David Hasselhoff chantant avec André Rieu lors d'un concert du Nouvel An sur la scène duquel il vient d'arriver dans sa Pontiac Firebird qui parle. Alors, je peux vous dire que Magritte peut remballer sa pipe et du chant son urinoir. Vous verrez les images. David Hasselhoff qui chante Looking for Freedom devant 100 000 Allemands de plus de 70 ans et donc aujourd'hui logiquement décédé du Covid. Sous la baguette d'André Rieu qui, pour se donner une contenance, agite la dite baguette comme s'il guidait David Hasselhoff dans son tour de chant. C'est, les amis, de toute beauté. Je vous conseille cette vidéo.
Merci Mathieu. Mais rassurez-nous sur un point, il a remonté la pente quand même.
Il a un peu remonté la pente en jouant effectivement de l'autodérision.
Mais il a un peu d'argent sur son compte.
Je vous inquiétez pas, je crois qu'il en a retrouvé un petit peu.
D'accord. Il a arrêté de boire.
Je ne peux pas m'avancer de ce côté-là.
Ok, bon, en tout cas, c'était bien. Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, Mathieu. Nous entrons maintenant dans la dernière demi-heure d'Historiquement vôtre, celle où, grâce à deux intrépides zigomars, nous décryptons le temps présent à l'aune du passé.
Oui, nous remontons aux origines des choses, des mots, des objets, même des recettes qui font notre quotidien, comme par exemple le sablé.
Eh bien, puisque nous étions dans le sable aujourd'hui, autant y être jusqu'au cou, quitte à le manger.
Le petit sablé, l'expression du jour que nous décortiquerons avec Stéphane, c'est l'expression à tire-larigot.
Qui est larigot ?
Et puis nous parlerons de ce qui sert, effectivement, tous les jours au quotidien, une fois qu'on a fait une soirée sable à la maison, à enlever ce sable, l'aspirateur.
Tout à fait, tout à fait. Moi, vous savez, j'aime bien Internet, parce que Internet, ça a permis à des milliers de personnes de se rendre compte que des gens partageaient les mêmes passions de niche qu'eux. Par exemple, avant, quand votre trip, c'était de vous déguiser en chèvre et d'imiter Omar Sharif, eh bien, vous deviez le faire à l'abri des regards, en restant persuadé toute votre vie que vous étiez le seul dans votre déviance. Maintenant, vous tapez chèvre Sharif sur Internet et vous trouvez immédiatement les 15 autres personnes sur la Terre qui partagent votre passion. Ah oui, toi, tu l'imites comme ça. Ah, et c'est quoi tes chèvres préférées? Tout ça. Et vous passez une vie meilleure. Eh bien, une des autres choses que Internet a révélées, à part les chèvres et Omar Sharif, c'est qu'il y avait plein de gens qui aimaient ce qu'on appelle en anglais le oddly satisfying, l'étrangement satisfaisant. C'est-à-dire toutes ces choses qui font du bien à regarder sans qu'on sache exactement pourquoi. Il y a des vidéos partout sur Internet, par exemple, de gens qui arrivent très très bien à couper du jambon. Vous voyez, et c'est vrai que quand on les regarde, c'est un petit peu apaisant. Il y a d'autres vidéos où des gens empilent des choses de la même taille les unes sur les autres pendant des heures et tout s'emboîte très bien et on se sent un petit peu bien, un petit peu apaisé. Et bien sûr, troisième catégorie, des vidéos où on voit des gens passer l'aspirateur sur une moquette sombre pour dessiner sur la crasse des autoroutes de propreté. Et ça, je pense que j'ai un petit peu exagéré quand je dis que c'était une niche, parce que cette satisfaction de l'aspirateur, beaucoup, beaucoup de gens la ressentent. Je pense que tout le monde ici, un petit peu. Pas vraiment.
Visiblement, Olivier Pouls n'a jamais passé l'aspirateur. Oui, visiblement, on embrasse sa compagne. Stéphane, vous passez souvent l'aspirateur?
Faut que je demande.
Faut que vous demandiez la sensation que ça fait.
En tout cas, moi, je fais partie de ces gens-là.
Moi, ça me détendait. J'avais un Hoover, mais un vieux Hoover.
Mais vous êtes passé à Dyson maintenant.
Non, mais je vous raconte une histoire. Vous savez, mais c'était comme une espèce de gros truc là,
avec
qui
un
faisait
gros
de...
sac derrière,
oui, avec un énorme sac comme ça, et j'adorais parce que ça faisait un bruit d'enfer.
Oui, voilà. Et puis,
vous avez vraiment eu une adolescence vraiment excitante.
Et puis ces petites routes, en tout cas, qu'on fait ça sur la crasse, c'est quand même très très agréable. Et ça m'a donné envie, moi, de savoir depuis quand ça existait l'aspirateur, cet outil qui autorise ces kiffs gigantesques. Bon, je pense, Mathieu, Stéphane, que vous serez d'accord avec moi lorsque j'affirme qu'on ne peut pas aborder l'histoire de l'aspirateur sans revenir avant sur l'histoire plus générale du nettoyage des surfaces. Ce serait pas sérieux, d'accord. Ce serait pas digne de vous ni des auditeurs d'Europe 1. Au commencement donc, Mathieu, Stéphane, Olivier, était le balai qui a longtemps été un objet rudimentaire, quelques branchounettes solidarisées éventuellement avec un manche, mais au tournant du 19e siècle aux États-Unis, il y a un monsieur qui a inventé le balai moderne en ayant l'idée d'assembler des tiges de sorgho. Le sorgho, c'est une plante dont on se fout un peu, mais qui a l'avantage énorme d'être à la fois rigide, solide et de ne pas s'effriter. Or, vous le savez, les balais sont soumis à un stress très important pendant leur vie professionnelle, stress auquel le sorgho résiste donc particulièrement bien. Et c'est ce balai moderne qui a permis le développement de tous les ancêtres de l'aspirateur. Alors, les ancêtres de l'aspirateur, c'est quoi ? Ce sont des balais circulaires qu'on devait actionner soi-même avec un levier, qui frottait par terre en tournant comme ça et qui mettait la poussière sur un petit plateau, une sorte, vous voyez, voilà, d'ancêtre de l'aspirateur. Mais techniquement, ce n'était pas encore des aspirateurs, tout simplement parce qu'ils n'aspiraient pas. Ouais. Voilà. Le premier aspirateur célèbre, lui, le vrai, c'est celui inventé par un monsieur anglais qui s'appelait Cecil Booth en 1901. C'était une machine de grande taille qui était traînée par des chevaux et qui marchait à l'essence.
Il fallait avoir un très grand salon.
Voilà. Et il se déplaçait en ville et c'était une sorte de service à domicile. Il vient avec son aspirateur gigantesque et il aspire chez vous. Et ça a fait un carton chez les personnes super riches et en particulier dans la famille royale britannique qui en a installé un à Buckingham Palace qui occupait donc une partie d'une pièce. Mais la véritable révolution de l'aspirateur, on la doit à quelqu'un d'autre, un monsieur qui s'appelait James Murray Spangler et qui était homme de ménage dans un centre commercial dans l'Ohio. Il avait 59 ans, il était asthmatique et la poussière qu'il devait nettoyer rendait son asthme encore plus insupportable. Alors il a pris un manche à balai, un moteur et une tête d'oreiller et il a bricolé un prototype d'aspirateur moderne tel qu'on les voit aujourd'hui. Il a lancé son entreprise en 1908, mais il avait du mal à la gérer. Alors il s'est associé avec le mari de sa cousine qui s'appelait comment ?
Hoover.
Qui s'appelait William Hoover. Oui, exactement. Oui. Eh bien, Hoover aujourd'hui, c'est une des plus grosses entreprises. Vous l'avez cité, votre exemplaire était un Hoover. Stéphane, c'est une des plus grosses entreprises d'aspirateurs au monde. Et aux États-Unis, le mot Hoover, c'est même devenu un verbe qui veut dire passer l'aspirateur. Donc, vous en déduisez, parce que vous êtes vif, que James Murray Spangler, il a bien fait de s'associer avec le mari de sa cousine parce que leurs aspirateurs ont cartonné. Même si, bon, James, il est mort pas longtemps après 1915. Il n'a pas vraiment beaucoup profité de son succès. Alors, Et depuis. Eh bien, depuis, comme le dit Carol Gantz, qui a écrit un ouvrage qui fait autorité sur l'histoire de l'aspirateur, depuis, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation dans l'aspirateur. Alors, bien sûr, il y a eu Dyson avec ses trucs sans sac,
que
vous aimez. Exactement.
Il y a pas de sac.
Il y a eu le Roomba. Le Roomba qui se passe l'aspirateur tout seul, le robot circulaire qui tourne un petit peu partout. C'est pas top, mais c'est quand même une petite innovation. Mais dans le fond, les aspirateurs d'il y a 100 ans, ils aspiraient à peu près aussi bien que ceux d'aujourd'hui. Et c'était déjà tout aussi jubilatoire de dessiner des autoroutes de propreté sur la moquette.
Vous êtes un grand malade, David, et c'est pour ça qu'on vous aime aussi. On va réécouter cette chronique.
En podcast et sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Lui aussi, on le surnomme l'aspirateur à choucroute. Olivier Pouls arrive. Pour
normalement, vous ajoutez de Namur.
De Namur, c'est vrai. Mais là, je n'avais pas envie de faire l'accent en belge, que je fais très mal. Olivier, on vous retrouve dans un instant pour l'origine du
sablé.
Et oui,
petit
gâteau.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
C'est la marque des grands hommes que d'être capable de grandes associations d'idées. Pas étonnant donc pour notre spécial héros du sable, Olivier Pouls, ait choisi de nous parler, oui, du sablé. Vous êtes, mais où allez-vous chercher vos idées? Tout est pensé, millimétré.
Je ne sais pas.
Vous êtes fascinant.
Beaucoup d'heures de réflexion, peu de sommeil la nuit. Vous avez cette obsession permanente de vous faire plaisir aussi et d'être à la hauteur.
C'est vrai. Tout ça réuni en une seule personne.
Voilà, ce qui me permet de dire aujourd'hui que quand on a une thématique sur le sable, je vais parler des sablés.
Alors, les sablés, c'est tout un tas de gâteaux très différents, non?
Des petits gâteaux secs, mais l'appellation, le nom sablé d'ailleurs, on le retrouve en 1670. Et c'est Madame de Sévigné qui le raconte.
Ah oui, non.
Et oui, Madame de Sévigné qui, à l'époque, passait ses journées dans les salons. Le lundi, à l'hôtel des princes de Condé, il y avait régulièrement ce qu'on appelait des écoles de friandises. C'est-à-dire qu'on se retrouvait entre gens bien et on mangeait des choses plutôt sympathiques. Et un de ces lundis-là, arrive une marquise, la marquise de Sablé. Et l'on sert des petits gâteaux secs. Ces petits gâteaux secs font fureur, et notamment le frère du roi qui s'en délecte et qui va réclamer à Vatel, qui est le maître d'hôtel des princes de Condé, qu'on lui serve tous les matins ces petits gâteaux qui vont donc prendre le nom de Sablé, parce que cela vient de la ville de Sablé-sur-Sarthe, dont effectivement cette marquise, de son vrai nom Madeleine de Souvray, était originaire. C'est une femme de lettres qui donc fréquentait régulièrement tous les salons parisiens.
Mais avant, il n'y avait pas de sablé, je ne comprends pas. Les sablés, c'est juste un gâteau.
La recette, évidemment, c'est en soi une recette qu'on voit un petit peu partout. Vous avez les shortbread en Angleterre, c'est exactement la même chose.
Ça n'a rien à voir avec des petites galettes de Saint-Michel, par exemple.
C'est un peu l'esprit, là aussi. La recette, la base de la recette est la même. Mais en 1923, l'appellation sablé de la Sarthe va être déposée. Une recette va être à peu près déposée aussi, même si c'est très compliqué de déposer des recettes parce qu'il suffit de changer
un ingrédient
ou une petite proportion. Mais bien évidemment que le sablé, ça fait penser à la galette bretonne, ça fait penser, vous l'avez dit, au shortbread. Mais il y a aujourd'hui, toujours dans la Sarthe, la sablésienne, qui est une biscuiterie. Qui continue à perpétuer la tradition de ces sablés, qui font d'ailleurs des gâteaux vraiment très bons, et qu'on aromatise aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Alors on peut l'aromatiser avec, pourquoi pas, des agrumes, des pépites de chocolat, etc.
À vous goûter chez les Fillons. Vous
savez, pardon, mais goûter chez les Fillons.
Vous n'avez jamais goûté chez les Fillons.
J'ai jamais eu la chance d'être invité chez les Fillons, que j'ai soutenu jusqu'au bout, mais de là à aller goûter avec eux, non.
Mais ils font sablés sur ça.
En revanche, vous nous racontiez que votre compagne faisait admirablement bien les sablés.
Alors attention, parce que si elle nous écoute, elle va m'engueuler. Elle fait des sablés lorrains, les sablés de Noël.
Mais oui, bien sûr, les fameux gâteaux de Noël,
elle a mis tellement de rhum, c'était trop bon.
Voilà, mais moi je vous donne la recette de base du sablé que vous pourrez ensuite, si vous voulez, l'aromatiser au rhum si ça vous chante. C'est extrêmement simple. Il vous faut 125 g de sucre, la même quantité de beurre, ce qu'on appelle du beurre pommade, c'est-à-dire ramolli, 250 g de farine. Moi, je rajoute un œuf et une petite pincée de sel, parce que le sel étant un exhausteur de goût, c'est toujours intéressant d'en avoir un tout petit peu dans la pâtisserie. Alors, on mélange le sucre et l'œuf, on rajoute la farine, le sel, et ensuite le beurre. Et vous savez, on pétrit avec les doigts. Il faut y aller avec la main, pas de robot. Et on sent d'ailleurs qu'il y a une espèce de texture de sable qui passe dans les doigts. Finalement, on va constituer une petite boule. On la laisse se reposer une heure dans le frigo. Ensuite, on va rouler un boudin, couper des petits disques d'environ 0,5 cm d'épaisseur qu'on va disposer sur une feuille de papier sulfurisé au four 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Et on a les sablés.
Surtout, ne pas oublier la feuille de papier sulfurisé. Moi, j'ai voulu assister ma compagne dans ses petits sablés une fois. J'ai eu le malheur de mettre
sur la plaque.
Ça a crémé le truc. Je me suis défoncé.
Oui, bien sûr.
Papier sulfurisé, évidemment. Ça a l'air très simple, dit comme ça.
C'est extrêmement simple à faire.
J'avoue que j'en ai déjà fait.
Bon, on ne les a pas goûtés, en
tout cas. Je veux l'archive où vous faites les sablés, Stéphane.
Non, vous savez, quand je fais la cuisine, je ne filme pas tout non plus.
Si vous filmez, vous avez quelqu'un qui vous filme en permanence.
Il pourrait se passer quelque chose. Non, vous confondez avec Kim Kardashian.
Peut-être.
Merci en tout cas, Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Absolument.
Voilà. Stéphane, c'est vous qui aurez le mot de la fin, comme d'habitude. Le mot de la fin aujourd'hui, c'est « attire l'arigot ».
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Sa polyvalence et sa grande force, il a animé les soirées les plus chiantes de France 2.
Alors tout de suite, ma chère Annie, on va retrouver Danny Briand qui revient. Je parlais de son album tout à l'heure, un album résolument romantique.
Oui, résolument romantique, mais aussi les soirées les plus décadentes à Joinville-le-Pont,
je vous le rappelle. Bonjour Joinville-le-Pont, bonjour à tous.
Et il est aussi très fort en français. Chaque jour, Stéphane Bern nous livre le mot de la fin. Et aujourd'hui, une expression visiblement, il utilise encore beaucoup aujourd'hui, et il est le seul, attire l'arigot, Stéphane.
Oui, attire l'arigot. Ah, vous, bon, d'accord, je vous le concède, l'expression est en train de tomber un peu en désuétude. La preuve, c'est la première fois de l'année que je l'emploie, mais en même temps, nous sommes le 15 janvier.
On est le 15 janvier, voilà. C'est pas mal quand même. Alors, c'est de l'argot, hein, ça signifie en grande quantité. On disait souvent, boire attire l'arigot.
Ça sent le vécu, hein, Mathieu.
Je vous confirme.
Oh non, Olivier, non.
Mais, alors, surtout, Mathieu, on n'oublie pas le tiret entre tir et l'arigot, même si on a plus souvent l'occasion de le dire que de l'écrire. Au XVe siècle, tirer est souvent associé à la boisson. Oui, quand le vin est tiré,
il faut le boire,
exactement. Quant au larigot, c'est une flûte, alors pas une flûte de champagne, mais une vraie flûte dans laquelle on souffle pour faire de la musique. Et il faut avouer que, qu'en effet, quand on tient une flûte verticalement, ça ressemble à l'action de boire. Eh bien, l'association des deux a fait naître l'expression « boire attire l'arigot ».
Vous êtes sûr de votre théorie ?
Attention, il existe une autre hypothèse pour tire l'arigot. Et là, celle-là me plaît beaucoup. Nous partons vers la Seine-Maritime, à Rouen exactement. Sa cathédrale gothique est la troisième plus haute du monde. Et en son sein, il y a la cloche, la Rigaud, offerte fin XIIIe siècle par l'archevêque Eudes Rigaud, qui lui a donné son nom. Cette fameuse cloche avait besoin de 12 hommes pour la tirer. On dit même qu'une somme d'argent était prévue pour que l'on offre du vin au gros bras qui était chargé de la faire sonner. La promesse de s'enivrer après avoir tiré la Rigaud a donné l'expression, ainsi qu'une très belle chanson, mais un peu paillarde, que je ne me permettrai pas de vous en tenir ici. Enfin, sachez qu'aux États-Unis, on ne dit pas « boire attire la Rigaud », mais « to drink like there's no tomorrow », comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Mon conseil de modération du jour, c'est justement, n'oubliez pas qu'il y a toujours un lendemain. Mathieu ?
Oui, Stéphane ?
Époustez-vous bien avant de rentrer chez vous. Hein.
Pourquoi ?
Eh bien parce que nous avons passé l'après-midi dans le sable quand même.
Vous êtes facétieux, Stéphane. Certes, je vais dûment m'épouster, mais d'abord, dites-moi lequel de nos dieux du sable, puisque c'était notre thème cet après-midi, vous a le plus étonné aujourd'hui ? Est-ce que c'est Isabelle Eberhardt, la reine du désert, René Caillé, dit l'Africain, ou mon personnage, David Hasselhoff et ses muscles ?
Vous connaissez ma passion pour les femmes aventurières.
Ah, oui. Elles sont irrésistibles. Ouais,
irrésistibles.
Mais surtout qu'elle s'est adaptée, en plus, elle a vraiment épousé les mœurs.
Il y a un côté mystique. J'ai retrouvé quelques écrits d'Eric Emmanuel Schmitt, vous voyez, où voyager, c'est aussi un voyage intérieur.
Waouh, c'est beau. Ouais. Faut savoir que Stéphane ne savait pas que j'allais le lancer là-dessus en plus. Donc la citation, vous l'aviez vraiment dans votre tête. C'est ça qui est fort, Stéphane.
Ouais, c'est fort.
Vous me fascinez.
Ah,
émission,
on est nombreux à l'intérieur.
Après émission. Comme deux aventuriers dans le désert, nous ne nous arrêtons jamais, Stéphane. Historiquement Vôtre vient demain dès 16h. On sera là, moi et ma gourde.
Oui, donc je serai là.
Vous êtes mon étoile du berger, Stéphane.
Ah, je préfère ça. Bon, à demain. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.